Dès à présent, nous verrons en quoi la révolution néolithique marque-t-elle une rupture dans l'évolution des relations entre l'homme et son milieu. William Ruddiman, un paléoclimatologue américain, avance qu'il y a déjà 5000 ans, les humains pourraient avoir émis par leurs activités déjà suffisamment de gaz à effet de serre pour modifier la trajectoire climatique de la Terre. Cela aurait repoussé le moment de l'entrée dans un nouvel épisode glaciaire. L'action humaine aurait contribué au plus grand intervalle de stabilité du climat. Cela aurait même permis l'éclosion des civilisations. Cette perspective ne tient pas compte des changements d'échelle survenus depuis la révolution industrielle. Désormais, l'homme transforme son lieu de vie comme il le souhaite d'une certaine manière. En Europe, eut lieu le premier défrichage. On comprend que l'homme, par ses activités humaines, inaugure une première rupture dans la relation entre les acteurs. Tout l'environnement est marqué par les nouveautés de l'homme. Elle métamorphose le décor. Cela a évidemment mené à une nature dite assujettie, vaincue, qui provoqua des sociétés inégalitaires. Les temps néolithiques sont donc le point de départ de nos actions, de nos sociétés actuelles.
Le document principal est une courbe qui montre l'évolution de la population mondiale de moins 60 000 avant notre ère à nos jours. On analyse un premier pic démographique en moins 40 000 avant notre ère qui est dû à l'amélioration des techniques de chasse et de pêche. Mais c'est en moins 10 000 avant notre ère que grâce à l'agriculture et l'élevage qui ont permis un commencement d'une croissance à long terme. On y observe une augmentation de 2 millions d'habitants à près de 100 millions, soit une population multipliée par 50. Depuis le XVIIIe siècle, le monde connaît un essor démographique, avec une courbe pratiquement à la verticale et une population actuelle de 7 milliards d'habitants.
La néolithique est un processus sur le long terme qui tend à se diffuser dans le monde de manière progressive. En effet, on peut voir que pendant un certain temps, le paléolithique était installé. Puis, à partir de moins 1200, prend place le mésolithique. Durant cette période, on peut constater le début d'une agriculture. À partir de moins 1600, le néolithique se révèle d'abord en Mésopotamie. L'agriculture et l'élevage se mettent en place, ainsi qu'une domestication des plantes et des animaux. Le Moyen-Orient est la région la plus touchée par le néolithique. Les foyers de domestication des plantes et des animaux les plus conséquents se situent en Afrique à partir de 5000 et en Mésopotamie ou en Chine du Sud en 8000 ou encore en Amazonie en 6000. On peut donc voir que le concept de néolithique est un processus sur le temps et qu'il s'est diffusé à des périodes différentes dans le monde.
Au Japon, sur la côte nord-ouest d'Amérique du Nord, en Sibérie, le long des grands fleuves de Russie et d'Ukraine ou encore du Danube, des sociétés de population de chasseurs-cueilleurs se sédentarisent, notamment dans les zones riches en ressources aquatiques. La sédentarisation, à partir de moins 12 000 avant Jésus-Christ, est une caractéristique du néolithique due à une nécessité de stockage du grain qui va entraîner une domestication des plantes.
Des plantes, des animaux et une modification du paysage comme sur le site de Jerf El Ahmar en Syrie. Plusieurs néolithiques existent, le néolithique européen et proche-oriental, ou encore le néolithique coréen, celui-ci différent puisqu'il semble méconnaître l'agriculture. Perçu comme une métamorphose en profondeur des sociétés humaines avec l'apparition plus ou moins simultanée de l'agriculture et de l'élevage, de la poterie et de la pierre polie, conséquence de la sédentarisation. Cependant, la pierre polie existait en Australie sans que jamais le néolithique y soit apparu.